Bonsoir mes frères et sœurs. Si vous avez lu le début de la Bible, quand ils sont sortis d'Égypte, vous avez certainement compris quelque chose. C'est que Dieu ne voulait pas de suite leur enseigner à découvrir le lait et le miel de Canaan. Est-ce que vous vous souvenez ce que Dieu voulait leur enseigner avant ? La crainte de Dieu, oui, exactement. Alors, c'est quelque chose qui se demande, qui s'apprend. C'est dans le psaume 34, si je ne me trompe pas, parce que j'ai perdu mon signé. Dans le psaume 34, oui, il y a un verset, le verset 12, qui pourrait nous servir de base, vraiment. Car il est béni l'homme qui, en plus d'aimer Dieu, a la crainte de l'Éternel. Ça s'enseigne. Psaume 34, verset 12. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour apprendre un peu plus sur ce respect profond des choses spirituelles. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Dans le psaume 86, je vais vous laisser plusieurs textes que vous pourrez vous-même méditer. C'est David qui fait une prière, comme on vient de le chanter d'ailleurs. Psaume 86, verset 11, il y a ce fardeau, c'est pour ça que David a été choisi par Dieu. Psaume 86, verset 11, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Car ce n'est pas évident, ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose que l'on acquiert au fur et à mesure qu'on apprend à connaître Dieu. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ce n'est pas facile, d'autant plus qu'il y a un temps pour tout. Vous êtes d'accord qu'il y a un temps pour tout ? Il y a un temps pour quoi ? Pour ? Je n'ai pas entendu. Il y a un temps pour quoi, dit la Bible ? Vous connaissez Ecclésias chapitre 3, il y a un temps pour ? Pour naître et pour mourir, pour semer, pour jeter des pierres, pour ramasser des pierres, pour déchirer, pour coudre. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Et c'est vrai que ce que nous vivons aujourd'hui, enfin ce que le monde vit, parce qu'on peut s'en extraire par une piété qui se dissocie de cette méchanceté, mais quand même, nous voyons à plusieurs reprises, nous allons prendre deux textes qui indiquent qu'il y a de quoi pleurer. Par exemple, dans le chapitre 7 de Josué, les choses ont avancé d'une manière formidable, et tout d'un coup, il y a une erreur qui est commise, une erreur, un gros péché qui est commis, et bien sûr, ça affecte énormément Josué. Si vous avez lu le livre de Josué, si vous avez étudié sur Josué, c'est rare de voir cet homme en défaillance. Mais là, je crois que c'est une des seules fois, il y a deux fois, je crois. Josué chapitre 7, il apprend, 36 hommes se sont fait tuer dans la bataille d'Aï, il ne comprend pas, parce que mais il a fait les choses à l'envers. Est-ce que ça peut arriver qu'on fasse les choses à l'envers ? Oui. Eh ouais. Le résultat, c'est qu'il va avoir même des paroles négatives. C'est rare dans la bouche de Josué, c'est très rare. Mais oui, ça peut arriver. Josué chapitre 7, verset 7. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Moi, je vous assure, heureusement que c'est dans la Bible, je ne le croirais pas que Josué ait pu parler ainsi. « De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont, ils nous feront la guerre, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?» L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ?» Voyez, il y a un temps pour se recueillir certainement, mais il y a un temps, il faut arrêter. Il faut arrêter de pleurer. Est-ce que vous comprenez ? Dieu dit, « Arrête, arrête de pleurer. » On le voit un peu plus loin dans le prophète Samuel, c'est exactement, enfin c'est pareil, voilà, Samuel, est-ce que Samuel est un homme de Dieu ? Ah ouais, Samuel, c'est vraiment un prophète. Hein. C'est quelqu'un, Samuel. Et pourtant, paf, il apprend que Saül est rejeté. C'est grave, bien sûr. Alors, 1 Samuel, chapitre 15. On va lire le verset 35. C'est pour vous dire qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Ne vous offusquez pas s'il y a des choses qui vous brisent le cœur. Il y a des choses, des fois, qui vous brisent le cœur. Par contre, il ne faut pas s'enfermer dans cette sinistrose. Il faut surtout s'en extraire et relever la tête. Mais il y a un temps pour pleurer. Vous allez comprendre le sujet tout à l'heure, au-delà de la crainte. 1 Samuel, chapitre 15, verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Et si vous preniez le temps avec moi de faire une étude sur ses comportements, vous verriez qu'il peut nous arriver de pleurer. Alors, verset 1er du chapitre 16, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaï, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et regardez au verset 2, Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra, il me tuera. » Donc, non seulement il pleure, mais en plus, il a peur. Donc, vous voyez, souvent, ça se conjugue, les choses, on pleure, après on a peur, on a de la crainte. Et pourtant, ce ne sont pas des minots, excusez-moi l'expression, ce sont des hommes comme Josué, des hommes comme Samuel, qui ont été profondément attristés par ce qu'ils voyaient. De la même manière, aujourd'hui, on peut être attristé avec ce qu'on voit. Et ce que l'on voit, j'ai le regret de vous dire que ce n'est rien à côté de ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Ce ne sont que les conséquences du péché qui sont inévitables. Car si Dieu jugeait le péché, laissez-moi vous dire que la colère de Dieu serait sur la terre. Mais comme Dieu est bon, il attend, comme disait Bruno dans sa prière tout à l'heure, que les dernières brebis rentrent avant que la colère ne se déchaîne. Ce que vous voyez ne sont que des conséquences inévitables du péché que Dieu doit laisser faire. Ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps où Dieu nous dit « arrête ». Et je crois que dans ce monde compliqué, il faut que l'on puisse dire « bon, maintenant, c'est terminé. J'arrête de me triturer l'esprit par rapport à des choses qui se passent et j'avance. Alléluia, et j'avance. » Et ce soir, on est là pour dire « Seigneur, tu as une parole de Dieu pour moi. » Dieu savait qui c'est qui viendrait ce soir et il sait ce qu'il a à nous dire. Il sait, lui, ce que nous ne savons pas. Il sait dans quel état nous pouvons avoir été mis à cause de quelque chose qui nous a blessés. Il le sait. Nous, ce que l'on veut, c'est faire attention, ne pas nous laisser détruire par la mentalité du monde. Parce que la mentalité du monde, elle rentre partout. Vous avez vu aujourd'hui, l'autre jour, j'ai lu sur Google Actualité un truc de fou. Je n'en revenais pas, quand même. Il y avait un article par rapport à l'emploi. Ça m'a fait pitié, quand même. Et il y avait dans cet article un sondage qui avait été fait auprès de plein de jeunes filles. Et sur quatre jeunes filles, je crois que trois, il y en avait deux qui étaient prêtes à coucher pour avoir le poste. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Ça fait pitié quand même. Et on est là aujourd'hui dans un monde complètement détruit. Il faut le physique de l'emploi. Il faut plaire. Il faut, voilà, dans tout, dans les médias, dans la mode, etc., on pourrait multiplier, il faut des gens qui ont la tête de l'emploi, mais Dieu, lui, il pense autrement. Dieu, il regarde au cœur. Alors, on va lire justement la suite. Quand Dieu choisit quelqu'un, il regarde au cœur. C'est important, ça, mes frères et sœurs. Ce soir, Dieu regarde au cœur, à votre cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, vous voyez, la leçon que Dieu veut nous enseigner, elle est là. Il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Lui, il avait la tête de l'emploi, excusez-moi l'expression. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc ça prouve que dans son cœur, il y avait de l'orgueil. Et ça prouve aussi que même si on est des serviteurs de Dieu, on peut se tromper. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. On le relit. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, ah, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint-le, car c'est lui. Samuel prit une corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous avons une histoire qui nous montre que l'homme, lui, regarde à l'apparence, l'homme, il regarde au look, tandis que Dieu, il regarde au cœur. Et on est dans ce... c'est le monde comme ça. Il faut faire bonne impression. Alors, je ne dis pas qu'il faut être négligé, bien entendu. Il faut s'appliquer, être soigné, et on a besoin de plaire, etc. Ça, je le comprends. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont rendu un témoignage lamentable en prenant le contre-pied. Mais il y a un enseignement. Dieu regarde au cœur. Ce soir, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Est-ce que vous savez dans quel état vous êtes? Est-ce qu'on le sait vraiment dans quel état on est? Pas toujours, hein. Mais il y a un danger terrible quand on vous veut faire passer l'apparence avant l'intégrité. Dieu regarde à l'intégrité. Le contexte, il est là, c'est pas facile. Ils avaient choisi un roi, alors ils avaient choisi un roi, Saül, qui lui avait le look, excusez-moi l'expression. Lui, il était plus grand que les autres, lui, il avait le physique de l'emploi. Mais c'était pas le choix de Dieu, c'était le choix des hommes. Et quand on choisit humainement, on en souffre beaucoup. Vous savez, quand on fait des choix sans la volonté de Dieu, on en souffre beaucoup. C'est pour ça que Samuel a beaucoup pleuré. Mais il fallait que les choses avancent. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu est souverain. Nous, on ne l'est pas. Nous, on est tellement petits, diminués, ce n'est pas péjoratif. Mais vous comprenez bien qu'on n'est rien du tout. Mais Dieu, avant d'avoir créé les galaxies, vous avez vu la taille des galaxies? Vous savez combien il y a de galaxies connues dans l'univers? Des milliards de galaxies, pas d'étoiles. Et chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Vous me reprendrez si je me trompe. Est-ce que vous réalisez, ça commence à faire. Tout en un nom. Et Dieu a créé tout ça, et tout ça, ça tourne à une vitesse incroyable, et tout ça s'est orchestré. Enfin, bon, Dieu a tout créé. Tout. Il contrôle tout. Et il sait tout. Donc, ça devrait nous rassurer. Oui ou non? Vous l'êtes rassuré? Il est tout puissant. Et ça nous dépasse, parce que quand on voit la taille de certaines étoiles, c'est la Terre à côté, c'est juste un petit grain de poussière, c'est impressionnant. Et Dieu a tout prévu. Mais ça, il faut avoir la foi, parce que la foi, ça consiste à quoi? Ça consiste à compter sur Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passera, quoi qu'il arrivera, vous devez mettre votre confiance en Dieu. Parce que c'est ce que Dieu vous demande. Les hommes de Dieu, ils peuvent être rejetés, comme Saül a été rejeté. Eliab, là, qui était rejeté aussi. Pourquoi Dieu l'a rejeté, au fait? Qui c'est que Dieu rejette? Les orgueilleux. Et c'était un orgueilleux. On le voit plus loin. Et pourtant, il va traiter David d'orgueilleux. Vous voyez les combats qu'il peut y avoir parfois entre frères. Ça peut arriver, des combats entre frères. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, parce qu'on ne se connaît pas. Et vous voyez, Eliab, Dieu dit, je l'ai rejeté. Si Dieu a rejeté ce gars, c'est parce que c'était ton orgueilleux. Et même sur le champ de bataille, vous lirez la suite, c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas bien. Et qui a failli être utilisé par le diable pour décourager David. Parce que ça peut arriver aussi que dans une même famille, des gens nous découragent. Est-ce que ça peut arriver? Ben ouais. Il y a dans des églises, les gens sont découragés. Je peux vous dire que ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que c'est bien de veiller les uns sur les autres et d'avoir du courage. Prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. C'est important, ça, de faire du bien aux autres. Oui ou non? Alors depuis dimanche, tiens, est-ce que vous avez fait du bien aux gens que vous avez côtoyés? Vous avez rencontré combien de personnes depuis dimanche? Tiens, faisons un petit test. Combien de personnes avez-vous rencontré depuis dimanche? Une, deux, cinq, dix? Combien de personnes, Caroline? Combien de personnes vous avez rencontrées? 15? Vous avez discuté avec les 15? Ouais, vous leur avez fait du bien ou du mal? Non, mais c'est vrai que si ça vaut la peine quand même de se poser la question, tiens, est-ce que je fais du bien avec les gens avec qui je suis? Tiens, dans ma maison, dans ma famille, mon épouse, mes enfants, les collègues, les chrétiens, les inconvertis, les gens avec qui je travaille, etc. Ça sert à faire une analyse intelligente de notre état d'esprit. Parce que sinon on va souffrir, on va faire souffrir les autres, et c'est pas comme ça que les choses avancent. En tous les cas, Dieu connaît tout, Dieu peut faire en sorte que des gens soient rejetés. Saül, il a été rejeté. Pourquoi il a été rejeté? Alors qu'il avait été choisi. Même si ce n'était pas le plan de Dieu, Dieu l'a quand même choisi. C'était le meilleur. C'est écrit, c'était le meilleur? Oui. Et vous avez vu comment il a fini? Et comment il a terminé, Saül? Il s'est suicidé. Ça fait pitié. Donc les hommes de Dieu peuvent être rejetés. Il faut être honnête. Il faut être honnête jusqu'au bout. Les Samuel, si grands soient-ils, ou les Josué, ils peuvent pleurer. Oui ou non? Oui. Le monde peut être bouleversé. Est-ce que le monde est bouleversé? Oui, et je vous dis, ce n'est pas fini. Et moi, je plains les croyants qui ne seront pas prêts quand ils vont réfléchir au fait de ne pas avoir été enseignés dans la crainte de Dieu, parce qu'ils vont se prendre un revers, parce qu'ils ne seront pas prêts. Si Dieu nous dit « Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel », il faut développer la crainte de l'Éternel. Dieu règne, il sait ce qu'il a à faire et il sait ce que l'on doit apprendre. David l'a appris. David a voulu l'apprendre et Dieu l'a choisi. Saül a été choisi, il a été choisi, oui, mais son cœur n'allait pas. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur. Et c'est ce qu'on fait ce soir, premièrement. Mais il a été choisi quand même. Il était grand, mais il n'avait pas le cœur qu'il fallait. Et c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre cette crainte de Dieu. Et lorsque Samuel arrive justement à Bethléem, de suite, lui, c'est quelqu'un, Samuel, c'est un grand homme de Dieu. Il se réjouit, il voit Eliab, il est grand. Ah, tu sais, il faut un gars comme Saül, il faut un gars grand. Saül était grand, donc il faut un gars grand, il faut un gars qui ait le physique de l'emploi. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit même, hein. Dans les pastorales, moi j'ai entendu de ces trucs, dans les conventions, il faut des jeunes qui soient capables, qui sachent jouer de la musique, des jeunes qui parlent bien. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Et Dieu va arrêter Samuel. Et je crois que Dieu est capable de nous arrêter pour nous dire non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu y regarde au cœur. Et ne nous imaginons pas que Dieu a changé d'avis. David a été en plus méprisé, parce que là aussi, non seulement il peut y avoir l'homme de Dieu qui se trompe, mais il peut y avoir du mépris. Parce que quand même, le grand prophète venait à la maison, tout le monde est invité, tout le monde va être super sapé, etc. Le Samuel arrivait dans la maison d'Isaïe, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, le petit frangin, on ne l'a même pas invité. Vous ne trouvez pas que ça montre un peu les relations qu'il devait y avoir dans la famille? Oui ou non? Est-ce que vous réalisez? C'était pas rien. Après le roi, c'était la personne la plus importante, le prophète. D'ailleurs, vous avez vu, quand les anciens l'ont vu arriver, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? C'était particulier que le prophète Samuel arrive dans la ville. Et le petit David... On l'invite même pas. Ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est que c'est encourageant, c'est que même si les hommes ne vous remarquent pas, c'est ça en fin de compte, lui vous voit. Même si les gens vous méprisent, lui sait où vous êtes. C'est encourageant quand même, non? C'est ça qui est magnifique. Cette histoire, on peut l'interpréter comme on veut, on peut la présenter sous la forme que l'on veut, mais si on regarde du côté de Dieu, c'est archi-encourageant. Parce que même si les hommes ne vous voient pas, même si les hommes ne vous observent pas, ne vous remarquent pas, Dieu, lui, il sait où vous êtes. Il sait où vous en êtes. Alors, ce sont des situations compliquées, mais j'aimerais, moi, qu'on comprenne une chose, c'est que quand David a écrit certains textes de la Bible, c'est quelque chose d'important. Quand il dit dans le psaume 27, vous voyez, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Qui vous dit que ça ne vient pas de là? Parce que quand même, c'est une forme d'abandon, un truc pareil. Oui ou non? Est-ce que vous réalisez vraiment ce qui s'est passé dans... Il aurait pu mal réagir. Est-ce qu'il aurait pu mal réagir? Eh oui, lorsqu'on est méprisé, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est abandonné, on peut mal réagir. David, il a pas réagi. Bon, dans d'autres circonstances, il a mal réagi. Mais après, il réagissait bien. Alors, on va faire venir David. David, il est arrivé. Peut-être que tout le monde était super bien sapé. Lui, il est arrivé. Il sentait le mouton, je ne sais pas. Quand on garde, vous avez déjà été avec des bergers? Moi, ma grand-mère, elle était bergère. Quand je l'approchais pour l'embrasser, j'avais l'impression d'embrasser une brebis. Mais c'est vrai, je vous assure. Tellement elle sentait le mouton. Elle était tout le temps avec les moutons. C'était impressionnant. Vraiment. C'est pas du mépris. Hein. Mais vraiment, on allait la voir dans les prés. Toute sa vie, elle a gardé des moutons. Vraiment, je vous assure, on a l'impression d'embrasser un mouton. Et peut-être David, il est arrivé là, tout sale, je ne sais pas, tout hirsute, pas peigné ni rien. Mais vous savez, moi je bénis Dieu pour cette histoire. Moi je bénis Dieu pour cette histoire. Quel enseignement. Oui, Dieu regarde au cœur. Alors pourquoi Dieu a choisi David? Parce que c'était un bon musicien, justement. Est-ce que c'était un bon musicien, David? Oui. Est-ce que c'était un bon poète? Vous avez vu combien de psaumes il a écrit? C'était quand même un poète formidable. Hein? Est-ce que c'est pas devenu un guerrier, quand même, un grand guerrier, David? C'est un homme de guerre. Hein? Est-ce que c'est devenu un homme de guerre fort? Ben oui. Et comment? Mais David n'a pas été choisi sur ses critères. David a été choisi sur son cœur. Et regardez avec moi ce texte dans le psaume 78. Tout ça, c'est ça la crainte de Dieu. Je développerai la crainte de Dieu. David, il a été choisi par Dieu alors qu'il était tout seul. Et c'est peut-être le point que j'aimerais que nous retenions ce soir. Lorsqu'on est seul, là on est ensemble, bon, c'est facile d'être intègre quand on est ensemble, c'est facile d'être pieux quand on est ensemble, etc. Mais là, il a été choisi lorsqu'il était seul. Psaume 78, verset 70. Regardez bien comment Dieu présente son choix. C'est Dieu qui l'a choisi, vous le savez. D'ailleurs, c'est écrit. Psaume 78, verset 70. Il choisit David, son serviteur. Vous vous rappelez ce qu'on a vu l'autre jour dans la réunion des responsables? Même si, que l'on soit berger ou que l'on soit roi, nous sommes d'abord des serviteurs. Il le tira des bergeries. Donc, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais c'est après que... Non, c'est pas après. Ça s'est passé quand David était tout jeune. Tout jeune, quand il était tout seul. Il le prit derrière les brebis qui allaient, si ça c'est pas clair, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Alors quelqu'un pourrait dire, non mais attends, où tu vas là? Le gars qui a écrit ce psaume, il n'est pas au courant de tout ce que David a fait, dans ses échecs et ses erreurs. Oui, oui. Mais quand il les a affrontés, eh bien il les a assumés. Il a été honnête. À la bergerie, seul, à l'école de Dieu. Je ne sais pas où vous êtes, vous, quand vous êtes seul, tiens donc. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas là pour parler que de David. Bien sûr que ça sert d'exemple. Mais le but, c'est de dire, tiens, mais comment je suis seul? Comment je suis? C'est là que Dieu voit. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégrité, quand on est tous ensemble, ce n'est pas compliqué. Mais quand je suis seul, en plus, je suis à l'école. À l'école de Dieu. On est toujours à l'école. On est tous à l'école. Et je ne sais pas si on est conscient de cette affaire. C'est écrit, c'est pour qu'on réfléchisse que ça s'est passé dans la solitude. Et le grand problème, il est là aujourd'hui. Ce n'est pas les réunions d'église, ça, c'est bien les réunions d'église. C'est facile les réunions d'église, même s'il y a un combat dans la prière, j'en conviens. Mais le grand problème... Il est là. Est-ce que Dieu peut m'avoir, lui seul, dans la solitude? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que Dieu peut m'avoir avec lui tout seul? Est-ce que vous aimez la solitude? Ou est-ce que vous êtes continuellement dans le bruit? Il y a des gens, ils sont continuellement dans le bruit. Il leur faut, dès qu'ils se lèvent, c'est la musique. Dès qu'ils sortent, c'est les écouteurs. Dès qu'ils arrivent, clac, il faut chatter avec les amis, les 395 amis sur Facebook. Voilà, c'est un truc de fou. Les gens, ils sont tout le temps connectés à quelque chose. Moi, je vous assure, autant il y a des bénédictions certainement dans toute cette technologie, je m'en doute. Mais est-ce que la plus grande bénédiction, ce n'est pas quand même qu'on puisse se retrouver seul avec Dieu? Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a des chrétiens, ils sont tout le temps de la musique. Il y a même des bouquins que moi, je ne suis pas prêt de conseiller, qui conseillent de faire des cultes avec de la musique chrétienne. Non mais... Franchement, je veux pas, parce que souvent on me taxe d'être trop sévère, mais franchement, réfléchissons un peu. Autant c'est merveilleux d'écouter de la musique chrétienne, autant je pense que quand on a des moments de culte, il faut être dans le silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et ne me faites pas dire que ce que je dis, c'est pas important. Parce que je pense que autant c'est bien, tant mieux, si on peut avoir de la musique, en plus gratos, et tout ce que vous voudrez. Mais mes frères et sœurs, les gens qui sont choisis par Dieu, c'est des gens qui aiment la solitude. Dieu a choisi David, Samuel pleurait, et on peut pleurer, vous pouvez pleurer, dire « qu'est-ce qui se passe ?» Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, l'œuvre de Dieu, Dieu l'achèvera. Vous le croyez que Dieu terminera ce qu'il a commencé? Oui, n'ayez aucun doute. Mais le problème, ce n'est pas de savoir que Dieu terminera son œuvre, c'est avec qui il la terminera. Est-ce qu'il peut terminer son œuvre avec cette Église ? Avec telle autre église, telle assemblée, tel des mouvements. Le problème, il est là. Dieu, croyez-moi, il terminera son œuvre. Et c'est pour ça qu'il cherche des gens intègres, des gens qui aiment la compagnie, mais qui aiment la solitude. David aimait la solitude. Je suis persuadé, ce n'est pas écrit, je suis persuadé que la majorité de ces psaumes, ce sont des psaumes qu'il a écrits lorsqu'il était tout seul avec Dieu. Je suis convaincu. Et quand vous lisez ces psaumes, et quand vous lisez rien que le psaume 119, vous vous rendez compte combien cet homme avait le souci d'avoir cette intégrité. Il l'a demandé. Venez, et je vous enseignerai la crainte. Regardez dans le psaume 119. Le psaume 119, je ne sais pas, c'est, moi quand je n'ai pas envie de lire la Bible, c'est le psaume que je lis. Et après j'ai envie de la lire. Mais c'est vrai, ça vous arrive de ne pas avoir envie de lire? Et lisez le psaume 119 en entier. Psaume 119, verset 34. Et après, vous aurez envie. Mais vous verrez que c'est vrai. Regardez cette prière. C'est magnifique parce que pourquoi Dieu a choisi David, qui n'était qu'un simple jeune homme, là, que personne ne connaissait, sa famille l'a même zappé lorsque Samuel est arrivé. Vous vous rendez compte comment il était méprisé, ce garçon. Psaume 119, verset 34. Donne-moi l'intelligence. Vous voyez? Pour que je garde ta loi et que je l'observe le dimanche matin. Pardon, chez les versions modernes. Que je l'observe de tout mon cœur. Voyez, donne-moi l'intelligence. Est-ce que c'est une prière que vous faites, ça? Donne-moi l'intelligence. Donne-moi du discernement. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi du bon sens. Est-ce qu'on peut demander à Dieu du bon sens? Regardez au verset 66. Ah non, mais ça vaut la peine. On comprend le cœur de cet homme. Regardez, parce que nous, on est tellement spirituels qu'on demande les dons. Mais regardez David, psaume 64, verset 119, 166. Enseigne-moi. Qu'est-ce qu'il demande? Le bon sens. Mais je peux vous dire que dans nos églises, c'est bien d'avoir du bon sens. Beaucoup de chrétiens sont tellement spirituels qu'ils en ont perdu le bon sens. Enfin, s'ils étaient spirituels, ils auraient du bon sens. Mais spirituel, entre guillemets. Donne-moi du bon sens. Et David avait envie d'apprendre. Il avait envie de changer. Il avait envie d'être utile. Et il est devenu utile. Parce que le but, ce n'est pas que d'apprendre et d'être équilibré même. D'apprendre un truc sur l'intelligence, une fois sur la crainte, une fois sur l'amour. Tout ça, ça ne peut que nous confiner dans un équilibre. Mais le problème, c'est est-ce que je vais être utile? Parce que c'est ça le but. Vous avez vu comment Dieu parle des arbres qui sont inutiles dans la Bible? Ouais. En tous les cas, c'est dans la bergerie que Dieu a choisi David. La bergerie, ce n'est pas forcément le bâtiment. Mais lorsqu'il était seul, je vous encourage à aimer la solitude. Je pense que c'est un des pièges du diable, ça. Je me trompe? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un piège? Moi, je suis sûr que c'est un piège. les gens qui n'arrivaient pas à bloquer une heure seule. C'est sûr que, soyons intelligents, jamais Dieu ne pourra nous utiliser si on n'est pas capable de bloquer une heure pour être seul avec le Seigneur. Une heure, c'est le minimum, bien sûr. Enfin, je dis une heure, pourquoi je m'autorise à dire une heure? Parce que Jésus a dit au jardin de Gethsémané, n'avez-vous pas pu veiller une heure avec moi? Je pense que c'est vraiment le minimum. Donc, dans ce psaume, il les fit paître avec un cœur intègre. Il avait choisi l'intégrité. Ce sont des choix. Il y a plusieurs textes dans la Bible. Ils ont choisi la crainte. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. C'est un choix, ça. Mais ça se choisit. C'est dans la solitude. C'est un choix. Quelles que soient les difficultés ou les dangers, il avait choisi la crainte. Il a dit, voilà, on m'a confié un troupeau. Je ne sais pas quel âge il avait, 12 ans, 13 ans, 15 ans, je ne sais pas, 20 ans. On lui a confié un troupeau, il dit, voilà, il faut que je garde le troupeau. Point. Est-ce qu'il y a eu des dangers dans le troupeau? Quel danger il a rencontré? Le lion. Qu'est-ce qu'il a rencontré? L'ours. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il voyait un lion? C'est pas trop mon truc, moi, les lions. J'ai pas fait l'école de dressage, c'est pas trop mon truc. Les ours, c'est pareil, c'est pas trop mon truc, moi. La zoologie, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il affrontait le danger. L'intégrité est toujours liée à ce souci de la responsabilité. Tu m'as confié ça, Seigneur, ou dans une église, on m'a confié ça, je le fais. Notre vie, peut-être j'exagère un peu, mais enfin quand même, ça tient debout. Notre vie ne vaut rien si on n'est pas capable de faire face à nos responsabilités. Et c'est comme ça que l'intégrité se manifeste. Il a choisi, vous vous rendez compte, il a risqué sa vie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il a risqué sa vie pour un mouton, alors que personne ne le voyait. Il aurait pu dire, bon, comme je l'ai déjà dit, un agneau de plus, un agneau de moins, on ne va pas faire un plat pour... est-ce qu'il ne l'aurait pas fait? Est-ce que vous ne croyez pas que les autres le faisaient? Il y a des gens, ils s'en fichent aujourd'hui, on s'en fiche, pour ne pas parler vulgairement, franchement, on n'en a rien à faire. Après tout, moi, j'ai des droits. Voilà, les gens, ils sont obsédés par leurs droits. J'ai droit à ça, l'État me doit ci. Jamais on entend parler de devoirs. Mais je crois qu'il y a des devoirs, quand on est chrétien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Par exemple, c'est mon devoir de prier pour les pasteurs. Est-ce que vous en faites un devoir? Ou est-ce que vous n'y pensez jamais? Et on pourrait faire la liste. Ça. Je pense que ça serait certainement utile. Lui, il a choisi, pour rester intègre, d'affronter les dangers qui se présentaient. Et c'est important d'être capable de dire, voilà, Seigneur, tu me demandes ça, maintenant je suis marié, j'ai des enfants, mais je m'occupe de ma femme, je m'occupe de mes enfants, j'ai un travail, je dois être ponctuel, je dois rendre des comptes, oui ou non? Le jour dit, mais moi, j'en ai rien à cirer. Eh oui. Et après, Seigneur, appelle-moi. Seigneur, je suis prêt à ton service. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'intégrité, Dieu va l'éprouver. Est-ce que Dieu aurait pu empêcher que... Parce que quand même, David, il allait devenir quelqu'un de bien. Est-ce que Dieu aurait pu faire un détour à l'ours pour qu'il... Oui ou non? Oui ou non? Mais bien sûr. Si Dieu n'avait pas voulu que l'ours se trouve dans la proximité du troupeau, l'ours, il ne serait jamais retrouvé. Mais Dieu l'a permis. Et nous, on est là avec nos épreuves, on est en vrac, je ne comprends pas, pourquoi Seigneur, tu permets ça? Écoutez-moi, ne parlez jamais comme ça. Quand vous avez une épreuve, dites Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi du bon sens, qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est au travail, demain ça va être peut-être dans l'église, une épreuve dans l'église, ben oui, ça peut arriver. Une épreuve dans la santé, est-ce que ça peut arriver dans le corps? Etc. Eh bien Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Pour que je sache savoir comment faire plutôt que de tout remettre en question. Des milliers de gens ont rétrogradé à Toulouse et dans tout le pays, dans le monde entier, parce qu'ils n'ont pas su à développer cette crainte de l'Éternel. Et l'intégrité, elle est éprouvée. Et l'intégrité, elle est vraiment éprouvée par Dieu, écoutez-moi bien, quand personne nous voit. C'est là que l'intégrité est éprouvée. Donc Dieu avait besoin d'un homme. Dieu avait besoin d'un homme intègre. Après le problème de Saül, Dieu avait besoin de quelqu'un, mais Dieu avait déjà choisi, Dieu a déjà préparé. Dieu a besoin d'une église. Est-ce que Dieu a besoin d'une église? d'une église, je ne parle pas d'un bâtiment, mais de monde, d'hommes et de femmes qui soient intègres, qui soient pieux, qui amènent les gens au salut. Oui, Dieu a besoin, Dieu il sait. Et ce soir, s'il permet ça, c'est que quelqu'un parmi nous veut peut-être changer de couloir et dire voilà, ça suffit, moi j'en ai marre d'ambiance, de me nourrir de légèreté, je veux de la profondeur, parce que Dieu il savait que vous viendriez. Est-ce que Dieu savait que vous viendrez? Oui, Dieu le sait. Et de la même manière qu'Israël avait besoin d'un homme intègre, notre monde, notre France, notre ville a besoin de gens intègres, des gens vrais, avec des qualités de cœur, qui sont engendrés, je le répète, dans la solitude. Ça ne se voit pas, c'est comme la prière, ça ne se voit pas. Qu'on change dans la prière. Quand moi j'aime ce texte dans Matthieu 6, avant et après le Notre Père, Jésus dit, quand tu pries, entre dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il enseigne la façon de prier et dès qu'il enseigne de nouveau dans le lieu secret, 4 fois, 2 fois avant, 2 fois après, il parle du lieu secret. Et c'est vrai que le secret, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, le secret, c'est le lieu secret. Et si vous aimez la solitude, Dieu vous changera, Dieu vous transformera, vous ne vous en rendrez pas compte, mais votre cœur changera. C'est important, mes frères et sœurs. On va lire un dernier texte pour terminer, dans le livre des Actes. Encore une fois, le Saint-Esprit veut que nous comprenions ces choses. Actes chapitre 13, il nous est rappelé cette notion. Alors, on n'a pas eu le temps de voir des textes sur la crainte, on va lire 2 ou 3 juste pour comprendre les bénédictions qui sont rattachées à la crainte. Regardez, Actes chapitre 13, on va lire à partir du verset 21. Regardez bien. Regardez bien comment Dieu, c'est Dieu qui nous parle de ce garçon. Acte 13, verset 21. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans. Vous voyez, des fois, les épreuves, ça dure. Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. Alors, dans la parole de Dieu, ça fait quand même. Ça indique quoi, j'ai trouvé David? Mais voilà, Dieu a dû chercher. Alors vous allez me dire, mais il est souverain, il le savait. Oui, mais c'est un verbe actif qui montre que ce n'est pas facile de trouver quelqu'un. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Ça, c'est quand même beau. On nous parle du cœur du Seigneur. Parce que Dieu a des sentiments aussi, c'est notre Père. Il est Dieu, il est tout puissant, il nous a créé à son image. Et quand il vous rendez compte, si c'est beau, homme selon mon cœur, qui accomplira de temps en temps une de mes volontés. D'accord? Qui accomplira toutes mes volontés. Après, c'est bien que ça soit dit. Parce qu'il ne faut pas se la jouer, comme on dit. Mais c'est quand même bien, il a fait des erreurs. Une fois, il a menti. Une fois, il a commis l'adultère. Une fois, il a fait tuer un de ses officiers. C'est un truc de fou. Il a fait de ces trucs. Il est passé pour fou quand il est parti chez les Philistins. Il bavait contre la porte pour se faire passer pour un débile. Enfin, pour dire, mais c'est pas David, c'est pas possible, c'est un sosie. Non, c'est lui. Mais il s'est vraiment repenti. Vraiment. Et il a pu rebondir et faire la volonté de Dieu. Alors, Dieu recrute. Ce soir, on est au Pôle emploi. Un peu, c'est vrai. C'est ouvrier, mais au Pôle emploi spirituel. J'aimerais juste lire 2 ou 3 versets avec vous, si vous voulez bien. Vous pouvez faire vous-même la recherche. On va lire dans le psaume 33. J'aimerais que vous méditiez ces textes ce soir, peut-être avant de vous endormir, plutôt que de consulter vos amis. Pour 300 ou 600 amis sur Facebook, quelqu'un m'a dit l'autre jour, moi j'ai 500 amis. Et je dis, mais vrai, t'as du bol. Tu les connais tous? Non, 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 c'est des gens que je ne connais pas, mais c'est des amis. On chatte. Alors bon, moi je n'ai rien à dire. Mais regardez la bénédiction qui est rattachée à ceux qui sont enseignés dans la crainte. Vous la rappelez tout à l'heure, on avait lu dans le psaume 34, le verset 12, « Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel ». Donc, vous pouvez être sûr que si c'est votre souci, Dieu va vous aider. On va lire juste quelques versets. Psaume 33, verset 18. Voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Ça vous va, ça? Est-ce que ça vous convient? Bon. Verset 8 du chapitre 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Vous le croyez, ça? Vous le croyez vraiment? Vous savez, ça me fait penser à 15 jours avant de rentrer dans le ministère. Vous savez, je travaillais pour l'EDF et j'étais sur un pylône. Et normalement, il faut continuellement s'attacher avec des... Comment s'appelle ça? Avec des mousquetons, là. Des harnais. Et on en a deux. Et clac, il faut tout le temps qu'il y en ait. Mais pour aller plus vite, on ne la met pas. On les met qu'en haut. Et quand je suis arrivé en haut du pylône, j'ai pris mon harnais et je l'ai lancé pour m'attacher à une cornière. Et quand, avec le poids, ça a fait casser la... Ça a cassé la barre sur laquelle j'étais posé. Et je me suis retrouvé pendu dans le vide, coincé, par la main. Et le chef en bas, il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. C'est pas possible, il y a quelqu'un qui te garde, il m'a dit. Et effectivement, si j'étais tombé de la hauteur où j'étais, je me serais tué. Mais en fait, ça, j'aurais été responsable puisque j'étais pas attaché. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis sûr que ce jour-là, c'est sûr, Dieu m'a gardé. Et je le crois que quand on peut être utile, le Seigneur, il va nous garder. Vous le croyez? Il garde même les gens qui ne sont pas utiles parce que Dieu est bon. Mais, oui, c'est vrai ou non? Ben oui, c'est vrai. Mais quand même, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous le croyez que c'est possible, ça? Vous voyez? Et quand on développe ce respect pour la crainte, c'est pas la peur, c'est ce respect, Dieu l'a dit, c'est sérieux. Ce matin, j'écoutais une prédication de M. Menpio qui avait discuté avec un homme. Vous savez, quand il a dit que notre nom peut être effacé du livre de vie. Et il discutait avec un chrétien qui dit, mais non, c'est impossible, Dieu ne pourra jamais effacer le nom. Mais non, mais c'est comme si Dieu avait fait une blague, quoi. Mais c'est grave, ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Si la Bible dit que notre nom peut être effacé du livre de vie, c'est que ça va arriver, hélas. Pour les gens qui n'ont pas la crainte, et M. Menpio s'appliquait à lui expliquer. C'est la parole. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, si Dieu l'a dit, c'est sérieux. Et David a développé cette crainte. Il a demandé, lisez le psaume, regardez dans le psaume 119, toutes les fois où David demande quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu. Eh bien, il l'a reçu. Parce qu'il n'était pas meilleur que les autres. Hein. Croyez pas. Il avait eu la même éducation, peut-être même il avait été blessé encore plus que les autres. Mais lui, il a choisi de surmonter le mal par le bien. Alléluia. Encore un texte. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car, regardez si c'est pas beau ça, rien ne manque à ceux qui le craignent. Il n'y a que Caroline qui a dit amen. Est-ce que rien ne manque à ceux qui le craignent? Mais vous le croyez, ça? Mais ça vaut la peine de prendre une concordance et de dire, tiens, je vais prendre ma concordance, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde peut la voir, justement, par Internet. Donc, vous tapez concordance biblique et vous tapez le mot crainte, craindre, les deux mots. Vous allez avoir une centaine de textes et vous dites, tiens, vous avez de quoi méditer pendant 15 jours. Et vous dites, Seigneur, moi aussi, je veux que tu m'enseignes la crainte de l'Éternel dans tel domaine. Et vous vérifierez les promesses du Seigneur. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. En tous les cas, je le répète, oui, au Pôle emploi spirituel, Dieu recrute sur ces critères-là. Des critères de grâce, des critères de joie, parce que c'est une joie. Hein, c'est une joie de dire, mais Seigneur, tu... Tel que je suis, je peux venir et je peux être utile. Utile, bien voilà, bien je vais développer ces choses. J'ai écouté une réunion, c'est bien, ça m'a éclairé, ça m'encourage. Mais voilà, je vais quand même veiller à ma façon de me comporter quand je suis seul. Quand je suis seul dans ma chambre. Quand je suis seul devant mon ordi, il y a tellement de pièges. Eh bien, je vais y faire attention. Et tu vas m'aider. Et Dieu va vous aider. Vous croyez? Vous le croyez? Eh ouais. Dieu ne peut pas faire autrement que de vous aider si vous êtes intègre. On remercie le Seigneur. Vous êtes d'accord qu'on le prie? Hein? Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, nous te remercions parce que si nous avons de quoi pleurer, toi tu as tout agencé et préparé d'avance pour changer le mal en bien. Et d'autant plus que tu utilises des hommes, des femmes qui vont contribuer à travailler dans l'œuvre de l'Église. Seigneur, aussi, donne-nous un cœur intègre. Nous demandons ce cœur. Donne-nous la sagesse et le bon sens. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'avoir des mains intelligentes pour faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Donne-nous cette joie de développer cette crainte de l'Éternel, puisque nous en sommes convaincus, puisque tu dis que tu nous l'enseigneras, si nous sommes tes fils et tes filles. Seigneur, garde-nous fidèles. Garde-nous, nous croyons que ce que tu as dit est la vérité, que tu gardes les fidèles, que ceux qui ont la crainte de ton nom, tes anges les protègent. Alors Seigneur, merci pour tout ce qui se passe dans l'invisible, que nous ne maîtrisons pas, mais si tu l'as dit, c'est que tes anges nous gardent. Alors que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Amen.